Kiosque Magazine.
Jeudi 5 février, un autre très beau matin d'hiver est à nos portes. Mais comme à tous les jeudis, nous allons... quand je dis nous, je veux dire moi-même, François Brodeur, puisque je suis seul ce matin. Éric en a littéralement plein le dos et il ne sera pas des nôtres pour les deux prochaines semaines. Mais je ne suis pas si seul que ça, puisque Rémi Hermoso, derrière la vitre, va m'empêcher de dire trop d'idioties. Je dis trop et non pas des idioties, puisque je parle d'économie, puis quoi, c'est inévitable. Il y a quand même une quantité minimale d'idioties qu'il faut dire. Oui, alors je vais vous parler d'économie et d'emploi au cours de la prochaine heure et vous allez voir qu'on a une semaine particulièrement chargée. On va commencer en parlant de petites entreprises. Est-ce que la croissance fait foi de tout? Vous allez voir que dans certains cas, garder à une entreprise une taille plus restreinte, c'est garder son intérêt, garder ses profits et finalement durer longtemps. On parle aussi des avantages comparatifs de Montréal et du Québec sur le marché nord-américain, puisqu'on le sait, on l'a répété ad nauseam, les Québécois sont les gens les plus taxés d'Amérique du Nord, mais ce sont peut-être ceux qui paient le moins cher qu'en coût de la vie à cause justement des services qu'ils se sont offerts. On va traiter du budget fédéral américain, puisque Obama a déposé un budget avec des idées qui seraient très, très, très intéressantes pour le Canada. On va le voir notamment pour taxer les profits des multinationales à l'étranger. La Régie de l'énergie, elle, est-ce qu'elle est encore là? Est-ce qu'elle sert encore à quelque chose après les dernières modifications que le gouvernement a apportées à son mandat pour limiter finalement son impact? Enfin, le marché du travail au Québec, est-ce qu'il y a vraiment une pénurie d'emplois? Parce qu'on le sait, la population vieillit actuellement. Les entrepreneurs, il y en a déjà qui se plaignent, qui ont beaucoup de difficultés à recruter des employés qualifiés. Mais est-ce que c'est une vraie pénurie ou est-ce que finalement c'est un peu comme dans les raisins de la colère? On aime avoir une abondance de travailleurs pour justement faire baisser le prix du travail? Enfin, et ça c'est très important, la Cour suprême a rendu cette semaine une décision capitale pour dire que le droit de grève fait partie des libertés fondamentales. C'est une dérivée du droit d'association. Le juriste que je suis ne pouvait pas laisser ça sur la touche, alors je vous en parle en toute fin d'émission. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Croître, devenir big, avoir une petite et moyenne transnationale, le rêve de tout entrepreneur, ben pas forcément. C'est peut-être le rêve de tous les banquiers, par contre. Ça donne lieu à un texte très intéressant, Sylvain Larocque, texte publié dans La Presse du 30 janvier, un texte intitulé « Petit, mais en santé ». La croissance des entreprises est souvent perçue comme hautement souhaitable. Pourtant, bon nombre de sociétés ne la visent pas à tout prix. Dans les années 70, Jacques Guénette et un associé ont fondé une firme informatisée, Cogito. L'entreprise a connu beaucoup de succès, mais elle a fini par imploser, rongée par une croissance insoutenable. « On se rendait malade à travailler », se remémore M. Guénette. En 1980, il a fondé DLGL, une entreprise de logiciels en ressources humaines. On s'est dit, il doit y avoir une autre façon de faire les choses, ne pas être plus gros, mais les meilleurs dans notre domaine. Pour Jacques Guénette, bien des grandes entreprises courent à leur perte. Ce qui fait foi de tout, c'est la création de valeur pour les actionnaires, souligne-t-il. Au nom de ça, on peut faire à peu près n'importe quoi. Tout le monde invente des plans de croissance abominables que les marchés ne peuvent pas soutenir. Et quand ça tourne mal, on coupe et c'est les employés qui écopent. Bref, la croissance à outrance, ça s'appelle un cancer, lance l'entrepreneur. DLGL ne refuse pas la croissance, mais ne cherche pas à multiplier clients, bureaux et employés. L'entreprise compte environ 90 salariés, soit à peu près le même nombre qu'il y a 5 ans. Son chiffre d'affaires annuel est relativement stable, à environ 17 millions, mais sa rentabilité est supérieure à celle de la plupart de ses concurrents de plus grande taille. Or, les tenants de la croissance limitée sont souvent perçus comme des extraterrestres dans le monde des affaires. « Ce n'est pas un langage que les banquiers comprennent », relate M. Guénette en évoquant la croissance musclée à laquelle s'attendent souvent les institutions financières de la part des entreprises qu'elles financent. La boutique Endurance, spécialisée dans la course à pied, vit une situation semblable avec ses fournisseurs. Ils nous mettent de la pression pour qu'on vende toujours plus, relate le propriétaire du commerce montréalais, Pierre Léveillé. DLGL et Endurance sont pourtant loin d'être les seules entreprises québécoises à ne pas être obnubilées par les ascensions spectaculaires. il faut détruire un mythe. Les entreprises qui vont prendre beaucoup d'expansion, qui vont aller à l'étranger, c'est une minorité dans le bassin entrepreneurial qu'on a au Québec, affirme Martine Hébert, vice-présidente principale de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. À la boutique Endurance, les affaires ont fortement cru ces dernières années à la faveur de l'engouement pour le jogging. En 2011, le commerce a doublé sa superficie pour répondre à la demande. Mais jusqu'ici, M. Léveillé a refusé d'ouvrir des succursales en banlieue, et ce, même s'il a reçu des propositions à cet effet de la part de partenaires potentiels. « Je n'ai pas cette ambition-là », disent-ils, en notant qu'Endurance est l'une des boutiques les plus performantes du pays dans son créneau. Plusieurs entreprises choisissent de ralentir leur expansion après avoir connu une forte croissance à leur début, question de réduire le risque de perdre le contrôle. D'autres se recentrent sur leurs meilleures activités après des tentatives de diversification plus ou moins fructueuses. Rendus à un certain âge, les gens réalisent qu'ils ne veulent pas nécessairement croître en termes de volume d'affaires, mais plutôt se cibler davantage. Ils veulent que leurs activités soient plus rentables. Il y a donc des entreprises qui deviennent plus petites, donnant l'impression de régresser. Mais en fait, elles font le ménage pour ne conserver que les divisions qui fonctionnent vraiment bien. Plus simplement, bon nombre d'entrepreneurs sont des passionnés qui ne souhaitent pas devenir des gestionnaires à temps plein. Ils veulent rester dans les opérations, résume Martine Hébert de la Fédération canadienne. Pour les économistes, la croissance durable est celle qu'une entreprise peut générer sans avoir besoin de financement additionnel. En s'appuyant sur les états financiers de plus de 850 000 entreprises, Industrie Canada a calculé que la croissance durable moyenne s'est élevée à 7,3 % par année entre 2000 et 2010. Or, la croissance réelle moyenne des entreprises a été de tout juste 3 % par année. Durant cette période, bien que les PME canadiennes semblent en général disposer de l'infrastructure financière pour poursuivre une stratégie d'augmentation de la croissance pour une raison ou une autre, elle préfère ne pas le faire, a conclu l'auteur de l'étude, Daniel Sins. Une entreprise qui ne vise pas la croissance effrénée doit transmettre clairement ses valeurs dans les offres d'emploi et lors des entrevues. Souvent, elles sont mal expliquées ou trop génériques, juge Lucie Morin. On doit pouvoir décoder ce qui est propre à l'entreprise. « Mon équipe est stable », affirme Julien Valade, président de la firme d'architecture Tracé Libre. Il y a 5 ans, j'ai engagé quelqu'un de formé en gestion d'entreprise qui communique clairement nos valeurs. On engage donc mieux. Moins d'employés signifie parfois de multiplier les compétences de chacun. Après avoir coupé 200 postes en 2009, on a fait plus de formation afin que les gens soient polyvalents, explique Nadji Ghanem, gestionnaire en ressources humaines d'une entreprise en recherche préclinique. On a pu faire du transfert de département. Quand on est petit, tout le monde doit être bon, dit Jean-François Bernier, président de l'agence de pub Alfred. L'avantage, c'est que les employés sont plus attachés aux produits car ils vivent tout le processus créatif. En période de décroissance, les dirigeants doivent sortir de leur bureau. Quand un membre de la direction va sur le terrain, ça augmente la mobilisation des troupes, explique Manon Daigneault, présidente du réseau DOF. On envoie ainsi comme message que les employés sont importants, qu'on les valorise. Ça joue sur l'estime de soi. Alors, on le voit, être gros, vouloir devenir toujours, toujours plus important dans son marché, c'est pas forcément la solution pour avoir une entreprise pérenne et surtout une entreprise où on se sent bien. Ah, payer des taxes, l'apanage du citoyen québécois, semble-t-il, en Amérique du Nord, parce qu'effectivement, à l'échelle mondiale, particulièrement si on se compare aux pays européens, on paie relativement peu d'impôts, du moins si on exclut l'Angleterre du calcul. Mais en Amérique du Nord, donc, les Québécois sont les gens qui paient le plus d'impôts, c'est connu. Ceci dit, Éric Desrosiers du Devoir s'est penché hier dans un article sur est-ce que ça empêche les gens de bien vivre? Eh bien, vous allez voir que c'est tout le contraire. Avantage Montréal et le Québec, le faible coût de la vie et des services publics compense amplement les impôts plus lourds. Le coût de la vie est généralement beaucoup plus bas au Québec qu'en Ontario, en Alberta ou aux États-Unis, même lorsqu'on tient compte de sa fiscalité plus lourde, conclut une étude. Caractérisé notamment par des services publics à bas coût et une fiscalité plus lourde mais progressive, Montréal s'avère nettement plus abordable que Toronto pour les 19 types de ménages analysés, constatent deux économistes de l'UQAM dans une étude d'une trentaine de pages réalisée pour le compte de la CSN. La métropole québécoise fait également mieux que Calgary, à l'exception des familles à revenus plus élevés qui n'ont pas d'enfants à la garderie ou à l'université. Il en coûte aussi nettement moins cher de vivre dans la ville américaine de Philadelphie pour les ménages plus riches en raison de la fiscalité, mais aussi en raison de l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis. Combinant le fardeau fiscal au coût d'un panier de biens et services, l'étude montre qu'un couple avec un seul enfant inscrit à l'université a un revenu annuel, oui, de 60 000 $ fait face dans la région Montréal à un coût de la vie global de 55 700 $ par année, soit 4 300 $ de moins que dans la région de Calgary, 9 400 de moins que dans celle de Toronto et 12 000 $ de moins que dans la région de Philadelphie. L'avantage montréalais se révèle nettement plus marqué pour un couple avec un enfant inscrit à la garderie, qui gagne seulement 35 000 $ par année, à raison d'un coût de la vie de 33 800, soit 12 800 de moins qu'à Calgary, 16 000 de moins qu'à Toronto et 16 800 de moins qu'à Philadelphie. Le Québec se démarque moins à l'autre bout du spectre, des tranches de revenus analysées, puisqu'un couple ayant deux enfants, dont un inscrit à l'université et gagnant 160 000 $ par année, fait face à des coûts de logement de 166 000 $ dans la région, dans la métropole québécoise, soit 3 600 de plus qu'à Calgary, 24 700 de plus qu'à Philadelphie, mais encore et toujours 28 300 $ de moins qu'à Toronto. C'est vraiment à Toronto qu'on paie le plus cher et évidemment, le jeu de la fiscalité progressive fait en sorte que plus on gagne d'argent, moins c'est payant de vivre au Québec. Pour cette étude, les professeurs Jean-Denis Garon et Dalibor Stevanovic du département de sciences économiques de l'UQAM se sont basés sur des chiffres produits par Runzheimer International, une firme de consultants habitués de comparer le coût de la vie dans les villes américaines pour aider les entreprises à fixer leur rémunération. Le panier de biens et services a été établi en fonction des habitudes de chaque type de ménage. Il comprend les coûts de logement, comme locataire pour les ménages aux revenus égaux ou inférieurs à 60 000 $ ou comme propriétaire pour les autres, de transport et de consommation courante, alimentation, vêtements, ameublement, loisirs, ainsi que les frais de santé, de scolarité et de garderie. La charge fiscale comprend l'impôt sur le revenu, les taxes à la consommation et les taxes foncières. On estime ainsi que pour se loger, il en coûte en moyenne 18 900 $ par année à un couple ayant un enfant et un revenu annuel de 88 000 $ dans la proche banlieue de Montréal. Ça, c'est 5 500 $ de moins que dans des quartiers équivalents à Calgary, 10 000 $ de moins qu'en banlieue de Toronto, mais quand même 4 700 $ de plus que dans la banlieue de Philadelphie. Le même couple devra débourser 1 540 $ à Montréal pour voir son enfant à la garderie et 2 371 à l'université. Ça, c'est beaucoup moins qu'à Calgary, où vous allez payer 7 800 $ de garderie et 3 400 $ d'université. À Toronto, 9 000 $ de garderie et toujours 3 400 $ d'université, alors qu'à Philadelphie, la garderie va vous revenir à 10 700 $ et l'université à 9 700 $ par année. Nous utilisons ces paniers de biens et services comme outil de comparaison, a expliqué mardi au Devoir Jean-Denis Garon. Dans certains cas, comme les frais de garderie ailleurs qu'au Québec ou l'assurance santé pour les moins nantis aux États-Unis, on sait bien que les coûts deviennent proportionnellement tellement prohibitifs que les gens doivent y renoncer. Les écarts sont si grands en matière de coûts de santé entre le Canada et les États-Unis et en matière de frais de garderie entre le Québec et le reste de l'Amérique du Nord, observent les auteurs de l'étude, que la récente réforme de la santé adoptée sous l'égide du président américain Barack Obama et l'augmentation des tarifs de garderie par le gouvernement québécois de Philippe Couillard ne risquent pas de réduire vraiment l'avantage québécois. Il faut noter aussi que nous ne tenons pas compte dans notre comparaison de la qualité des services offerts, ajoute Dalibor Stevanovic. La fiscalité plus lourde au Québec permet aux autres de le rattraper en matière de coût de la vie, mais pas complètement. Généralement plus progressive qu'ailleurs, la charge fiscale totale pour un couple ayant un seul enfant à la garderie et un revenu annuel de 35 000 $ s'élève à 4 400 $ au Québec. C'est 2 800 $ de plus qu'en Alberta, 1 300 $ de plus qu'en Ontario et 1 500 de plus qu'en Pennsylvanie. L'écart se creuse au sommet de l'échelle de revenus car un couple ayant deux enfants, dont un à la garderie et gagnant 160 000 $ par année, doit retourner au gouvernement 76 100 $ à Montréal. C'est plus qu'à Toronto, c'est 4 000 $ de plus en fait, bien plus qu'à Calgary, 18 700 $ de plus, et encore plus qu'à Philadelphie, 26 800 $ de plus en fait. Ce portrait de la situation n'est pas tellement différent d'un autre que la CSN avait elle-même réalisé il y a une dizaine d'années, a d'abord remarqué mardi en entretien avec Le Devoir, le trésorier de la centrale syndicale québécoise, Pierre Patry. Il arrive aussi à point nommé, ajoute le syndicaliste, qui venait de passer la journée en commission parlementaire où on étudiait une fournée d'augmentation de tarifs et de réformes de l'État québécois proposées par le gouvernement Couillard. Cette étude nous alerte sur l'importance de ne pas régresser. Dans le contexte actuel où le gouvernement du Québec passe au peigne fin l'ensemble des programmes gouvernementaux et la fiscalité, nous pensons qu'il faut avancer avec prudence et surtout se poser la vraie question. Quelle sorte de fiscalité voulons-nous pour financer quelle sorte de politique publique? Si tout est perfectible, il faut quand même constater que le Québec est plus loin d'être l'enfer que certains disent.
Amsterdam, qui s'est chargé du glaçage. Et je reviens à Montréal, le corps tatoué de visage. Des anges dandy aux danses plumages ont mis en lumière mon passage. Le soleil inonde le terminal, le dope fait danser mes scandales en format original.
Montréal, par Ariane Moffat, bien sûr. Cette semaine, il s'est passé quelque chose de très, très intéressant, mais d'un peu académique. Je commence par un préambule tout simple, puisqu'on en a déjà parlé à cette émission. les multinationales américaines font des milliards de profits à l'extérieur des États-Unis. Or, ces profits-là demeurent à l'extérieur des États-Unis puisqu'elles ne veulent pas payer l'impôt qu'elles paieraient si elles rapatriaient ces sommes-là aux États-Unis. Ce que ça veut dire en pratique, par exemple, c'est que Apple a préféré l'an dernier emprunter quelques milliards de dollars pour payer des dividendes et racheter ses propres actions plutôt que faire revenir ses profits et payer de l'impôt dessus. C'était plus payant pour elle d'emprunter. Situation un peu ridicule à laquelle le président Barack Obama entend remédier dans son dernier budget. Puis ce qui me fait dire que c'est un peu académique, bien sûr, puisque le président propose les budgets, mais c'est la Chambre des représentants au premier chef, puis le Congrès dans sa totalité ou en dernier lieu, qui approuve le budget. Or, le Congrès, on le sait, est aux mains du Parti républicain pour qui rien de ce que le président Obama peut faire n'a de valeur. Mais n'empêche que, vous allez voir, il y a un dispositif très particulier et Francis Veil estime qu'on pourrait s'en inspirer. Francis Veil de La Presse, donc, qui signe un texte le 4 février. Obama, les multinationales et le Canada. Les multinationales Apple, Google et autres General Electric ont accumulé à l'étranger des montagnes de profits faiblement imposés, ce qui soulève l'indignation. Or, contrairement à la croyance populaire, ce phénomène n'est pas le lot de l'ensemble des multinationales, il est proprement américain. Ni l'Europe ni le Canada ne sont aux prises avec une situation semblable avec leurs entreprises. Cette différence s'explique par le système fiscal archaïque des États-Unis que Barack Obama propose de réformer. Qu'en est-il au juste et comment le système américain se distingue-t-il du nôtre? Aux États-Unis, faut-il savoir, les profits réalisés à l'étranger par les filiales de sociétés américaines font l'objet d'un lourd impôt lorsqu'ils sont rapatriés. Tant que l'argent reste à l'étranger, il n'est pas imposé. Mais au retour, l'impôt fédéral est de 35 % auquel s'ajoute parfois un impôt d'État. Ce taux musclé a eu des conséquences pour l'économie américaine. Il a privé les Américains de rapatriements de fonds gigantesques. Au total, il y aurait pour, et tenez-vous bien, 2100 milliards de dollars américains qui dorment à l'extérieur des États-Unis, selon certaines estimations. C'est autant d'argent que toute la production annuelle de l'économie canadienne mesurée par le produit intérieur brut. Les autorités fiscales de la plupart des autres pays industrialisés ne fonctionnent pas comme le fisc américain. Les fonds qui sont rapatriés de l'étranger sont souvent exemptés d'impôts, comme c'est le cas au Canada, à la condition qu'il y ait un accord fiscal avec le pays hôte. La logique derrière cette exemption d'impôts est simple. Elle vise à éviter à nos entreprises de payer de l'impôt deux fois, soit dans le pays étranger et au retour au Canada. Il y a eu des abus, certes, mais c'est le grand principe derrière notre système. Les pays de l'Union européenne ont un fonctionnement semblable. Par exemple, une multinationale française ne paie pas d'impôt en France sur ses profits rapatriés d'Allemagne, puisqu'elle a déjà payé de l'impôt en Allemagne et vice-versa. Barack Obama veut corriger cette exception américaine. Dès 1916, il propose que les entreprises américaines paient un impôt minimum de 19 % sur leurs profits courants réalisés à l'étranger. Par contre, la réforme prévoit un mécanisme qui réduirait ce taux dans la même proportion que l'impôt payé à l'étranger. Autrement dit, si Apple a déjà payé 12,5 % de ses profits en Irlande, elle ne paiera que 6,5 % au fisc américain, essentiellement. Si le taux étranger est de 25 % elle ne paiera rien aux États-Unis. Ce système de taux minimum de 19 % ne pénaliserait donc pas les sociétés américaines qui paient leur juste part d'impôts d'ailleurs et ne découragerait plus le rapatriement de fonds. Par contre, il serait punitif pour les multinationales qui ne paient qu'une petite somme au fisc de toute origine pour leurs activités courantes. Barack Obama ne s'arrête pas là. Pour les profits passés, soit les 2100 milliards de dollars américains à accumuler, il faudrait prélever un impôt de 14 % une seule fois, ce qui rapporterait 268 milliards de dollars américains, presque autant que le produit intérieur brut du Québec. L'argent servirait à financer les travaux d'infrastructure et la réduction du déficit. En échange, le président américain offrirait un cadeau aux entreprises. Il abaisserait leur taux d'imposition fédérale de 35 à 28. Au Québec, le taux fédéral provincial est de 26,9. La réforme propose en outre de faire passer de 20 à 28 le taux d'imposition fédérale sur le gain en capital des particuliers. Les États-Unis ont un système archaïque. Obama propose maintenant de l'harmoniser avec celui des autres pays en quelque sorte. L'objectif est de rendre le système fiscal américain plus concurrentiel, explique le fiscaliste Éric Labelle de PricewaterhouseCoopers. Il est peu probable que la réforme Obama soit adoptée telle que proposée, puisque les démocrates sont minoritaires. Cependant, les républicains se sont montrés ouverts pourvu que le système soit simplifié. Au terme de négociations, il pourrait être possible que le taux de 14 % sur les profits accumulés à l'étranger passe à 10 % par exemple, et que le taux des entreprises descende plus bas que les 28 % envisagés. À tout événement, ces changements pourraient inspirer le Canada. Ici, les fonds rapatriés sont exemptés d'impôts, même si l'argent vient ultimement d'un pays qui ne prélève pas ou peu d'impôts, comme la Barbade avec qui nous avons une convention fiscale. Un taux minimum semblable au taux de 19 % d'Obama serait donc équitable. Le gouvernement Harper n'a toutefois pas choisi cette voie jusqu'à maintenant. Depuis 5 ans, le Canada a signé des traités avec plusieurs autres paradis fiscaux, les Bahamas, l'île de Man, les îles Vierges britanniques. Ces accords permettent certes au Canada de faire lever le secret fiscal des entreprises canadiennes qui y sont établies, mais en échange, les entreprises peuvent maintenant rapatrier les fonds au Canada sans payer d'impôts, à la condition qu'elles y aient des activités significatives. Une histoire à suivre dans le contexte des prochaines élections fédérales est une très, très bonne idée. Impossible de parler d'économie ces jours-ci sans continuer à vous parler de la Grèce, la Grèce où effectivement le nouveau parti au pouvoir qu'on a qualifié de gauche radicale, ce mot de radical est carrément excessif là, concernant ce parti-ci, a commencé à faire ses démarches auprès de la Banque centrale européenne pour renégocier sa dette. On disposera en Grèce d'environ 2 milliards de dollars de liquidités actuellement au gouvernement, ce qui permettrait de tenir jusqu'à la fin du mois de février. Ce que le gouvernement grec voudrait, c'est disposer de liquidités qui lui permettraient de tenir jusqu'au mois de juin, de manière à renégocier son financement de façon plus constructive. Et parlant de manière constructive, il y a deux commentaires qui sont arrivés cette semaine et qui ont mis du beurre sur le pain du ministre grec des Finances. D'abord, Barack Obama, qui qualifiant la situation d'austérité du gouvernement grec, a dit « C'est impossible d'imposer une telle austérité à quelqu'un en l'absence de croissance économique. Il faut de la croissance pour être capable de réduire son financement. » Et c'est clair que tout le système politique grec pour Barack Obama est en péril si on continue dans la voie qu'on a empruntée. Ça, Angela Merkel n'a pas dû le digérer, mais elle a dû être encore plus fâchée quand le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, la Banque d'Angleterre qui s'est tenue à l'écart de la zone euro, a dit sensiblement la même chose cette semaine. Donc, la Grèce, situation à suivre. On fait une pause et on se retrouve pour la deuxième moitié de cette émission.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Deuxième demi-heure, au cours de laquelle il sera question de régie de l'énergie, de marché du travail et de droit de grève. Je commence immédiatement en vous parlant d'énergie. On le sait, au Québec, l'énergie électrique, c'est le fait d'un monopole, Hydro-Québec, qui n'a qu'un actionnaire, le gouvernement du Québec, et lequel actionnaire est terriblement intéressé à aller chercher un maximum d'argent de son entreprise et donc dans nos poches directement. Or, pour équilibrer tout ça, il y a un mécanisme administratif qui est la Régie de l'énergie, dont le mandat est de fixer le tarif d'électricité que vous allez payer ou que les grandes entreprises vont payer de manière à s'assurer qu'il n'y a pas de profits excessifs qui sont prélevés, donc, dans nos poches. Bon, ça, c'est le principe. Vous allez voir que, malheureusement, on a beaucoup enlevé de dents à la mâchoire de la Régie de l'énergie. Ça fait l'objet d'un texte d'Hélène Barry paru dans la presse du 4 février. La Régie de l'énergie perd son mordant. Les efforts du gouvernement québécois pour éliminer son déficit sont en train d'enlever à la Régie de l'énergie les derniers pouvoirs qui lui restent en matière de fixation des tarifs d'électricité. L'organisme, ainsi vidé de ses principales responsabilités, est-il encore utile? On se le demande de plus en plus, dit Marc-Olivier Moisan-Plante, analyste en matière d'énergie à l'Union des consommateurs. Si on accepte ça, la Régie n'a plus sa raison d'être. Les consommateurs industriels d'électricité se posent la même question. Je me demande si ça vaut toujours la peine de faire des présentations devant la régie, dit Luc Boulanger, porte-parole de l'Association québécoise des consommateurs industriels d'électricité. Ça demande beaucoup de travail et de temps, et si on n'a pas le fruit de nos efforts, ça sert à quoi? Avec les années, la Régie de l'énergie s'est fait enlever par les gouvernements successifs une bonne partie des pouvoirs qui lui avaient été accordés lors de sa création en 1996. Le projet de loi 28, qui concrétise les efforts du gouvernement Couillard pour éliminer le déficit, est la goutte qui fait déborder le vase. Le gouvernement se donne le droit d'accaparer les profits des deux divisions réglementées, distribution et transport. Je rappelle qu'Hydro-Québec est divisé en trois entités corporatives, distribution, transport et production. La régie a compétence strictement sur distribution et transport. Donc, le gouvernement du Québec se donne le droit d'accaparer les profits des deux divisions réglementées qui dépassent le taux de rendement autorisé par la Régie de l'énergie. Ces profits excédentaires, dus à l'inexactitude des prévisions d'Hydro-Québec, apparaissent presque chaque année et totalisent 1,3 milliard de dollars depuis 2008. Comme pour les autres entreprises qu'elle réglemente, la Régie de l'énergie avait proposé un mécanisme de partage de ces excédents pour qu'une partie serve à réduire l'augmentation tarifaire de l'année suivante. Ce partage des excédents, qui avait fait l'unanimité, n'aura pas eu le temps de voir le jour puisque le gouvernement met la main sur la totalité des excédents avec le projet de loi 28. C'est presque 2 ans de travail devant la Régie pour rien, déplore Marc-Olivier Moisan-Plante. Devant la commission parlementaire qui étudie le projet de loi, le porte-parole de l'Union des consommateurs a précisé hier que la mainmise du gouvernement sur les profits excédentaires équivaut à une hausse annuelle de tarifs de 1,4 % en plus de la hausse officielle. L'autre irritant du projet de loi 28 est l'obligation faite à Hydro-Québec Distribution de vendre d'abord l'énergie la plus chère qui vient des appels d'offres sur le marché pour l'achat d'énergie éolienne, de centrales à la biomasse ou de petites centrales hydroélectriques avant l'énergie dite patrimoniale, c'est-à-dire le bloc réservé à la consommation du Québec au prix fixé beaucoup plus bas à 2,79 le kilowatt-heure. Vous avez bien entendu, Hydro-Québec doit finalement acheter de toutes les petites centrales où on produit pour beaucoup plus cher l'électricité pour vous revendre cette électricité-là en faisant un profit plutôt que de s'approvisionner directement sur ces grands barrages où l'électricité coûte à peu près rien parce que les barrages sont à peu près tous déjà payés, les vieux en tout cas. Donc, le projet de loi prévoit aussi que la division distribution ne pourra plus revendre ses surplus sur le marché d'exportation pour limiter les hausses de tarifs de l'année suivante. La Régie de l'énergie n'a pas le pouvoir d'empêcher Hydro-Québec Distribution d'acheter de l'énergie éolienne à un coût élevé, même si elle n'en a pas besoin, et de s'en servir pour justifier ses augmentations de tarifs. Si la Régie n'a même pas le pouvoir d'empêcher l'achat d'énergie superflue, ni de s'opposer à ce que ces achats gonflent les tarifs, ceux qui paient la note s'interrogent sur la raison d'être de ce tribunal administratif. L'augmentation réclamée cette année équivaut à 4 fois l'inflation, souligne Luc Boulanger, porte-parole des consommateurs industriels. Hydro-Québec a demandé une augmentation de 3,9 pour 2015 et une hausse de 3,7 étalée sur 5 ans. Le professeur Pierre-Olivier Pinault, titulaire de la chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal, trouve malheureux que le gouvernement intervienne de façon inappropriée dans le fonctionnement de la Régie de l'énergie. La loi 28 est une autre forme d'atteinte au processus réglementaire initialement créé, sans pour autant faire les réformes nécessaires sur le prix de l'électricité, a-t-il commenté. D'où l'on voit, et je viens là-dessus, que les tribunaux administratifs, comme c'est le cas par exemple pour l'Office national de l'énergie au gouvernement fédéral, sont souvent tellement bâillonnés que c'est comme si on disait « Ah, il y a un processus neutre et indépendant qui vous garantit des droits et protège, je ne sais pas moi, l'environnement ou le montant que vous payez », alors qu'en vérité, on leur a coupé les ailes de façon à ce qu'ils ne puissent que rendre la décision qu'on veut qu'ils rendent. Dans le cas du gouvernement provincial, c'est augmenter le prix de l'électricité. Dans le cas fédéral, c'est permettre le passage d'un pipeline sur le territoire québécois. Ah, marché du travail. Éric Desrosiers a signé dans Le Devoir plusieurs textes sur la question cette semaine. Je reviens sur un texte du 31 janvier 2015. Une pénurie. Quelle pénurie? Encore mal documentée, la rareté de la main-d'œuvre pourrait être un mal pour un bien. Vous allez voir pourquoi. En dépit de l'importance grandissante qu'on y accorde, la rareté de main-d'œuvre reste mal documentée au Québec comme au Canada et pourrait ne pas être aussi terrible qu'on le dit, surtout si elle permet d'améliorer le sort des travailleurs et de forcer les entreprises à s'attaquer à leurs problèmes de productivité. Se fiant entre autres à des études prédisant que le départ à la retraite des baby-boomers provoquera dès 2021 une pénurie d'un million de travailleurs au Canada, dont presque le tiers au Québec seulement, le premier ministre Stephen Harper a déclaré en 2012 que ce phénomène était le plus grand défi auquel fait face le Canada. Le directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette, est venu le contredire l'hiver dernier en concluant que la majorité des études sérieuses réalisées sur le sujet ne révélaient pas de pénurie à l'échelle nationale ni d'inadéquation importante entre les compétences et les besoins du marché. Et je rappelle ici que le directeur parlementaire du budget, c'est cet officier du Parlement, un officier neutre, il est attaché à la bibliothèque du Parlement, dont le mandat est d'éclairer les députés en finalement faisant des recherches pour se pencher sur l'objectif, les objectifs politiques et leur atteinte. La même confusion règne au Québec. À en croire les enquêtes réalisées par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante auprès de ses membres, le principal obstacle aux ventes et à l'augmentation de la production des PME québécoises serait la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, 27 % des entrepreneurs pensent ça, devant le manque de demande intérieure et le manque de liquidité. Selon une autre enquête de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, il y aurait actuellement environ 300 000 postes vacants dans le secteur privé au Canada, dont près de 65 000 au Québec. Le ministère québécois de l'Emploi et de la Solidarité sociale préfère ses propres statistiques, qui disent entre autres qu'il n'y avait qu'en 2012 que 16 730 postes vacants depuis au moins 4 mois, soit moins de 1 % 0,8 pour être précis, de l'ensemble des emplois au Québec, et que beaucoup moins encore, 0,1, ont entraîné de graves problèmes aux entreprises, comme la perte d'un contrat ou des retards de livraison. Ce sont des proportions infimes, observe Louis-Philippe Tessier-Parent, analyste du marché du travail au ministère. En fait, je vois mal comment on pourrait parler de pénurie de main-d'œuvre quand on a encore 360 000 chômeurs au Québec. L'économiste admet volontiers que le marché du travail sera de plus en plus serré au cours des 25 prochaines années, avec l'augmentation de 94 % des personnes âgées de 65 ans et plus et la stagnation de la population âgée de 20 à 64 ans. Mais l'on n'entrevoit pas de pénurie malgré tout. Sur près de 1,4 million d'emplois à pourvoir entre 2013 et 2022, dont 80 % de départs à la retraite, on estime que plus de la moitié, 58 % en fait, seront occupés par des jeunes de moins de 25 ans, 18 % par de nouveaux immigrants, 6 % par des personnes actuellement au chômage et 12 % par l'augmentation de la participation au marché du travail de personnes de différents groupes d'âge, dont plus de la moitié âgées de 65 ans ou plus. Tout cela devrait contribuer, entre autres, à réduire graduellement le taux de chômage à 6,2 % en 2017 et à 5,7 % en 2022, soit de plus en plus près de ce que les économistes considèrent comme le plein emploi. En d'autres mots, les prévisions montrent que la quantité de main-d'œuvre devrait être suffisante, note Louis-Philippe Tessier-Parent, si l'on parvient à mettre tout le monde à contribution, y compris les populations qu'on a encore du mal à intégrer au marché du travail, comme les immigrants, les travailleurs plus âgés ou les personnes avec des contraintes particulières. Si l'on peut parler d'une plus grande rareté, il ne peut être question de pénurie générale. Le défi sera de s'assurer que la qualité sera également adéquate, c'est-à-dire que les compétences des gens correspondent aux besoins du marché. Les données agrégées ne doivent pas nous tromper. Certaines entreprises et même des secteurs entiers vont littéralement manquer de main-d'œuvre spécialisée, prévient Florent Franqueur, PDG de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. On pense évidemment aux professionnels de la santé, aux ingénieurs en informatique, à d'autres techniciens spécialisés, mais pas seulement. À Montréal, vous aurez probablement plus de difficultés aujourd'hui à trouver une bonne secrétaire réceptionniste bilingue qu'un comptable, parce qu'on n'en forme presque plus, note-t-il. Cette situation n'est pas nécessairement une mauvaise chose, a fait valoir plus d'un économiste, notamment parce que la course à la main-d'œuvre entre les employeurs les poussera à augmenter les salaires après 3 décennies de presque stagnation. Cela forcera aussi les entreprises à s'attaquer plus sérieusement à un autre problème chronique au Canada et au Québec, soit la faiblesse de leurs gains de productivité. Les employeurs vont de plus en plus se retrouver devant une réalité brutale, annonce Louis-Philippe Tessier-Parent. Des Mercedes à 10 000 $ c'est rare. Autrement dit, des travailleurs compétents et expérimentés qui ne coûtent pas cher, ce sera de plus en plus rare. Aussi de deux choses l'une. Soit il faudra accepter qu'ils soient moins expérimentés pour les payer moins cher et les former au sein de l'entreprise, soit on cherchera la crème et on la débauchera ailleurs en y mettant le prix. Tous les secteurs économiques ne seront pas égaux devant ce défi. Encarcané par sa lourdeur de fonctionnement et ses conventions collectives contraignantes, le secteur public risque d'être moins en mesure d'ajuster son offre aux demandeurs d'emploi que les employeurs du secteur privé, observe Florent Francoeur. Lorsque les gouvernements voulaient transformer le ministère des Transports en agence autonome, il ne s'est pas caché que l'un de ses objectifs était de se donner plus de souplesse en matière d'embauche. À la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, on craint que les PME fassent les frais de cette lutte pour la main-d'œuvre entre grandes entreprises et gouvernements. Elles ne disposent généralement pas des moyens financiers pour égaler leur offre de salaire et autres avantages, selon l'économiste Simon Gaudreau. C'est préoccupant parce que les coûts de main-d'œuvre sont extrêmement importants pour les PME, mais aussi parce qu'elles sont le plus gros employeur privé au Québec. Leur seul espoir est de compter sur d'autres avantages comme leur taille plus humaine et la valorisation des employés. Mais pour le moment, si les grandes entreprises considèrent de plus en plus les questions de ressources humaines comme un enjeu stratégique, les dirigeants de PME ne semblent pas tellement se soucier de la rareté de main-d'œuvre, à part peut-être dans la région de Québec, déplore Florent Francoeur. Quand tu leur dis qu'un travailleur sur 4 va prendre sa retraite dans les 7 prochaines années, ils répondent qu'ils ont un horizon de 2 mois. On est très loin de la gestion prévisionnelle, ce qui fait qu'on se réveille presque toujours trop tard. Et je le répète, relisez Les raisins de la colère, vous allez voir la situation inversée beaucoup pire. La terre a tremblé à Ottawa cette semaine, plus particulièrement directement sous l'édifice qui abrite la Cour suprême du Canada. Je vous dis pourquoi tout de suite. La Cour suprême a décidé, dans une décision à 5-2, que le droit de grève, ça faisait partie de la liberté d'association et donc que c'était protégé par la Charte canadienne des droits et libertés et donc qu'une législation provinciale ne pouvait pas brimer ce droit-là sans raison très, très particulière. Vous allez voir de quoi il retourne dans le texte de Stéphanie Marin de la Presse canadienne. Ça a été un texte qui a été publié dans le Devoir du 31 janvier. Une loi sur les services essentiels est invalidée par la Cour suprême. En invalidant une loi de la Saskatchewan sur les services essentiels qui limite le débrayage des employés du secteur public, la Cour suprême du Canada a aussi établi que le droit de grève est protégé par la Charte canadienne. Dans un jugement, 5-2, rendu vendredi, le plus haut tribunal du pays a ainsi bouleversé l'état des relations de travail au Canada et modifié l'équilibre des forces entre les employés et les employeurs. Les syndicats remportent ainsi une importante bataille, eux qui tentaient depuis de nombreuses années d'obtenir une protection constitutionnelle pour le droit de grève. Pour la Cour, le régime législatif de la Saskatchewan sur les services essentiels brimait indûment la liberté d'association des travailleurs du secteur public, tel que prévu par la Charte, notamment parce qu'il donnait trop de pouvoir à l'employeur, le gouvernement, qui pouvait unilatéralement décider combien d'employés et lesquels ne pouvaient faire la grève. Nul mécanisme véritable n'était prévu dans la loi pour dénouer une impasse, par exemple comme le Conseil des services essentiels au Québec. Le tout entrave substantiellement le droit à un processus véritable de négociation collective, a tranché la Cour. Cette décision ne signifie toutefois pas que toutes les lois sur les services essentiels des provinces, dont celle du Québec, sont automatiquement invalidées. La loi déclarée inconstitutionnelle vendredi présentait certaines failles non présentes dans d'autres lois visant le même objectif. Quant au droit de grève, il jouit de la protection constitutionnelle en raison de sa fonction cruciale, écrit la majorité de la Cour sous la plume de la juge Rosalie Abella. La Cour a ainsi renversé son propre précédent qui datait de 1987. Elle a aussi suspendu la déclaration d'invalidité de la loi, donnant ainsi un an à la Saskatchewan pour en rédiger une nouvelle mouture. Les deux juges qui ont formulé une dissidence sont plutôt d'avis que la Cour suprême ne devrait pas s'immiscer dans l'équilibre délicat des relations de travail établies par les élus. La constitutionnalisation du droit de grève consacre une interprétation politique de la notion de justice au travail, qui favorise les intérêts des salariés au détriment de ceux des employeurs, voire du public, écrivent les juges dissidents Richard Wagner et Marshall Rothstein. La loi qui a fait l'objet de l'étude attentive de la Cour suprême était celle qu'avait adoptée la Saskatchewan en 2008. La province soutenait que sa loi protégeait la sécurité de la population en cas de grève en maintenant au travail notamment des ambulanciers, des éboueurs et divers employés municipaux. Plusieurs syndicats avaient contesté sa constitutionnalité et les gouvernements de plusieurs provinces, notamment le Québec, ont aussi fait valoir leurs arguments, jugeant que leur propre loi sur les services essentiels était menacée. En première instance, un juge de la Cour supérieure de la Saskatchewan avait tranché que la loi était invalide. Cette décision a ensuite été renversée par la Cour d'appel de la même province. Le gouvernement du Québec a plaidé en faveur du statu quo. Son régime législatif des relations de travail est toutefois différent de celui qui existe en Saskatchewan. Malgré cela, la décision rendue par la Cour suprême vendredi ne sera pas sans impact. Le Québec a aussi une loi sur les services essentiels et a déjà usé de mesures législatives pour forcer le retour au travail des employés du secteur public. Vendredi, le Conseil du patronat du Québec s'est dit surpris du jugement de la Cour suprême. Une décision majeure, a déclaré le porte-parole du CPQ, Guy-François Lamy, qui estime que la Cour est allée plus loin que ce qui lui était demandé, car la constitutionnalisation du droit de grève a un impact bien au-delà des services essentiels. Le Conseil du patronat mesure encore les impacts de ce jugement, mais M. Lamy note que les conséquences pour les employeurs privés québécois sont limitées, puisque le droit de grève existe déjà dans le Code du travail de la province. Il estime toutefois que le jugement pourrait changer le climat des relations employeur-employés, même dans le secteur privé. Peut-être que j'ai, en tant que représentant d'employeurs, une crainte que cette décision risque de conforter les syndicats dans leur approche lorsqu'ils font la grève. Quand les relations sont tendues, cela pourrait ajouter à la vigueur de l'argumentation, a-t-il dit. Il croit que cela va aussi renforcer le sentiment des employeurs que les relations de travail sont nettement déséquilibrées, favorisant les syndicats. Quant aux syndicats, ils voient dans ce jugement une victoire. Cette décision est historique parce qu'elle vient rétablir un équilibre dans le rapport de force entre les employés du secteur public et leur employeur, alors que ce rapport s'était nettement détérioré en raison des interventions des gouvernements, explique Daniel Boyer, président de la Fédération des travailleurs du Québec, dans un communiqué. Le jugement qui vient d'être rendu envoie un message clair à tous les législateurs du pays, rappelle Louise Chabot de la Centrale des syndicats du Québec. L'exercice de la grève est un droit et tout salarié syndiqué peut l'exercer si les négociations de ses conditions de travail achoppent. Et je profite de l'occasion pour remettre en contexte peut-être un peu la situation québécoise où l'État québécois a déposé ses offres pour les 5 prochaines années, offres qui sont, disons-le, au mieux chiches au secteur public, en se fondant notamment sur l'interdiction faite du droit de grève pour les employés du secteur public visés par les services essentiels. Par exemple, dans un hôpital, 90 % des infirmières doivent être présentes en temps de grève. Et 90 % des infirmières au mois de janvier dans un hôpital, eh bien, c'est plus d'infirmières que ce qu'il y en a au mois de juin dans l'hôpital, à cause des vacances, tout bêtement. Voyez-vous que la notion de service essentiel ici est toute relative et elle ne peut plus être considérée dans l'absolu. Et mieux que ça, la Cour suprême allait plus loin en ajoutant que si vous privez vos employés d'un droit de grève en invoquant des services essentiels, eh bien, vous devez mettre en place un mécanisme d'arbitrage qui éventuellement permet à ces employés-là de s'adresser à quelqu'un de neutre pour fixer leurs conditions de travail. C'est ce qui existe déjà pour les policiers, par exemple. C'est ce qui a fait aussi que les policiers ont eu de somptueuses augmentations au cours des 30 dernières années. C'est donc un dossier à suivre. Ça va avoir énormément de suite au Québec, je vous le dis tout de suite, dans la négociation collective des conditions de travail.
Watching the clock until your return. Riding the back porch and watching it burn. Now it begins day after day. This is my life ticking away, waiting to hear footsteps that say love is returned, this time to stay. Try to pretend it's over at last. This time the big hurt will end.
Alors, il nous reste quelques minutes pour faire un coq à l'âne débridé et aborder les sujets en bref et en vrac. Je commence en vous amenant à Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, où la pétrolière Petrobras, c'est la grande pétrolière brésilienne, vient d'être décapitée. La présidente de la pétrolière, une amie personnelle de la présidente du Brésil, et la plupart des directeurs viennent d'être virés simplement suite à un gros scandale de corruption. On parle de plusieurs milliards. La population brésilienne est en état de choc. Et il faut savoir qu'une partie de ces milliards-là a notamment servi à faire réélire le parti de la présidente actuelle du Brésil. Alors, ça va être un dossier à suivre. On revient chez nous pour une assez mauvaise nouvelle, finalement, puisqu'on apprenait, il y a une étude qui a été publiée cette semaine, une étude qui dit que la fameuse réforme scolaire, celle qui a introduit le socio-constructivisme à grande échelle dans la pédagogie des écoles secondaires, eh bien, c'est un échec. Les étudiants ne réussissent pas mieux, sauf peut-être un tout petit peu en sciences et en mathématiques, là où le Québec était déjà parmi les plus forts au monde. Mais en français, c'est pas très bon, les notes ont baissé. Et ce qui est pire, il y a encore plus de garçons qui décrochent qu'il y en avait auparavant. Et ça peut devenir dramatique. Qui sont les employés les plus concernés au Canada par leur emploi? C'est-à-dire les employés qui s'investissent le plus, qui sont prêts à parler avec leur employeur, qui sont prêts à donner ce plus-là puis à finalement demeurer en emploi plus longtemps. Eh bien, ce sont les gens de l'île du Prince-Édouard. Et tout de suite après, ce sont les Québécois. Et tout en bas de l'échelle, ça c'est tout à fait surprenant, les Albertains sont les tout derniers. C'est-à-dire la province où les employés se sentent le moins concernés par leur emploi, c'est l'Alberta où les emplois sont le mieux rémunérés. Essayez de tirer une conclusion. Je vous ramène en Grèce pour une petite brève très intéressante parce que un des trucs que la Troïka, la fameuse Troïka, c'était la Banque centrale européenne, le FMI puis la Commission européenne, c'est les conditions qu'on avait imposées à la Grèce pour la financer, la fameuse austérité, précisant entre autres que la Grèce devait vendre à peu près tous ses actifs pour réussir à financer sa dette. On en était à vendre les plages devant les hôtels. Or, on s'est aperçu que loin des 71 milliards de dollars qu'on espérait, ben on n'atteindra même pas 35 milliards de prix de vente. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de brader tous les bijoux de la couronne grecque, finalement? Ça fait partie des trucs que le gouvernement discute actuellement. Je vous parlais tantôt de l'Office national de l'énergie et de ses pouvoirs plus ou moins truqués pour arriver à une conclusion donnée. On le sait, dans l'évaluation du pipeline Énergie Est qu'on veut faire passer pour sortir les sables bitumineux de l'Alberta, l'Office national de l'énergie n'aura pas le droit de se pencher sur le réchauffement de la planète consécutif à l'exploitation de ces sables bitumineux. Or, il y a une pétition de 100 000 noms qui a été déposée au gouvernement fédéral pour exiger que l'Office se penche aussi là-dessus. Et c'est tout à fait logique puisque l'Office national de l'énergie a le droit et doit se pencher sur le profit que ce pipeline-là va apporter au Canada. Mais elle n'a pas le droit de se pencher sur le coût environnemental du même pipeline. Alors ça aussi, c'est un grand dossier à suivre, mais il est peu probable que cette question-là, effectivement, change. On le sait, les conseils d'administration au Canada, comme partout en Occident, sont le fait d'hommes blancs de 50 à 60 ans, généralement, qui sont anglophones pour la plupart. Est-ce que c'est payant d'y mettre des femmes? Est-ce que c'est payant d'y mettre des Latinos, des Chinois, d'y mettre des personnes handicapées également? Eh bien, oui. La démonstration est faite que plus un conseil d'administration est hétérogène, plus l'entreprise est performante, parce que ce sont de nouveaux réseaux, de nouvelles idées, de nouvelles façons de fonctionner, et ça pourrait donc devenir une tendance. Et comme on sait que les conseils d'administration, leur plus grand vecteur de changement, c'est l'augmentation de la profitabilité, bien, peut-être que le meilleur risque d'y voir apparaître femmes handicapées et minorités ethniques, c'est justement l'augmentation des profits. Et voilà, nous vous avons présenté l'édition du 5 février de Kiosque Magazine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre programme. En attendant, bonne semaine.